Bonjour, merci d'être fidèle au grand face-à-face de France Inter. Au sommaire, jusqu'à 13h, la semaine des humoristes, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein et puis le débat du samedi. Qui est le peuple? Impossible de compter tous ceux qui se réclament du peuple ou qui parlent au nom du peuple. On a vu aussi ce slogan écrit au marqueur sur des gilets jaunes. Nous sommes le peuple. Et pourtant, pas évident de définir la notion. Beaucoup plus simple de dire ce qu'il n'est pas. Les élites, la France d'en haut. Je vous laisse compléter la liste. On en débattra tout à l'heure avec le président du collège de philosophie, maître de conférence à la Sorbonne. Il publie un essai passionnant. Comment gouverner un peuple roi chez Odile Jacob. Pierre-Henri Tavoyot nous rejoindra d'ici une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein, mes camarades du samedi, bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Avant votre duel, avant de ferrailler la semaine des humoristes de France Inter, mise en onde par François Audouin. Et on démarre avec la première dame, Brigitte Macron, en visite officielle en Égypte le 27 janvier dernier, portait des baskets dorées qui ont fait réagir les gilets jaunes, mais aussi Tanguy Pastureau.
Tarif estimé des souliers, 750€, 325 par pied. C'est là qu'on se dit que les cul-de-jatte, ils gagnent pas mal en pouvoir d'achat. Hein, le prochain rhum sans jambes qui fait la manche, je lui dis « Ouais, bah arrête, tu m'as pris pour une buse !» Alors ce sont de très belles baskets couleur or à l'arrière. C'est-à-dire que vous croisez Ribéry avec, il s'allonge par terre, il commence à les bouffer. Mais sur les forums des gilets jaunes, c'est vite parti. On s'est mis à lire des messages comme « Ouais, Brigitte a la belle vie, rien n'est trop beau pour elle, avec nos impôts en plus !» Alors c'est vrai qu'on est dans une période de crispation sociale. Des gens ont faim. Donc on doit faire attention aux symboles. Si elle était venue à Abou Simbel en tongs, avec un débardeur Jennifer et une ceinture Promode, un tour de dromadaire ensuite et une soirée au Club Med à se déchirer à l'alcool de date, la facture totale aurait été de 47€ pour 4 jours. Là, on serait dit, elle a compris la leçon, elle est avec nous. Elle serait devenue une icône de la lutte contre la précarité.
Et puis dans l'actualité, la suite de la polémique sur les LBD. Écoutez les explications de Pablo Mira.
Parlons un petit peu du LBD, si vous voulez bien, ou plus connu sous le nom de Flashball, que les gilets jaunes, eux, préfèrent appeler... Ah, mes yeux ! Putain, mes yeux ! Je vois plus rien ! Alors, pour rappel, les LBD, ce sont ces armes qui projettent des balles en caoutchouc et qui ne sont utilisées qu'en cas de force majeure. Par exemple, un policier aperçoit un gilet jaune, il se dit, tiens, lui, il a une bonne tronche de force majeure. Allez, les gars, le Blu-ray de Taxi 4 pour celui qui lui arrache la pommette. Alors, on accuse les forces de l'ordre de trop l'utiliser. Mais ils en ont besoin pour se défendre. Nous aussi, on tirerait à leur place. Nous aussi, on le ferait. Hein, quand vous vous faites agresser par des gilets jaunes, armés d'espoir d'une vie meilleure, eh bien, c'est normal de leur tirer une balle de réalité au visage.
Et puis, la loi anti-casseurs et l'interdiction administrative de manifester, Nicole Ferroni s'est inquiétée.
Les agissements à l'occasion de manifestations sur la voie publique ayant donné lieu à des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ainsi que dommages importants aux biens constituent une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Bon, et vu la phrase compliquée, j'ai voulu demander dans mon imagination au préfet ce qu'il en était. Bonjour monsieur le préfet, voilà, je me présente, je m'appelle Nicole Ferroni, en fait j'ai des sentiments un petit peu durs qui me bousculent, du coup pour compenser ça, je voudrais manifester de la joie. Et je viens chez vous pour déclarer cette manifestation. Pas madame Ferroni, oui préfet des Bouches-du-Rhône. Votre projet c'est quoi? Vous voulez manifester dans l'espace public vos sentiments profonds, à savoir de la joie, au risque que ça déborde sur autrui, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait. Eh oui, mais en vertu de la nouvelle loi anti-casseur, ça va pas être possible, Ferroni, votre dossier. Vous avez fait des manifestations récemment? Non? Eh si, une manifestation sportive. Ah oui, c'est vrai, je suis allé voir un match de catch sur la place du village. Voilà. Ah là là, s'il me restait pas un peu de joie, je vous assure que cette loi-là me ferait manifester beaucoup d'inquiétude.
Dans l'actualité aussi, les suites de l'affaire Benalla, révélation de Mediapart, révélation aussi du pays de l'Auge, Daniel Morin.
Non mais, c'est un truc de dingue l'affaire Benalla, et c'est pas fini. Selon un journal local normand, on apprend qu'à 15 ans, Alexandre Benalla était le garde du corps de Marion Cotillard et de Guillaume Canet à l'occasion du festival de Cabourg. Il paraît qu'il aurait eu la vocation de garde du corps en regardant, émerveillé, le film Bodyguard avec Kevin Costner. Heureusement qu'il n'avait pas kiffé Rambo, il aurait tué tous les Vietnamiens du 13e arrondissement de Paris. Ouh, 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 quelle affaire les amis, mais quelle affaire! Non mais sérieusement, garde du corps à 15 ans, mais ça va donner quoi la suite? France Inter. Attention, flash spécial, affaire Benalla, la suite. On a appris ce matin qu'à l'âge de 5 ans, Alexandre Benalla était vigile dans sa classe de grande section de maternelle. Sur plusieurs photos prises à l'époque, on le voit tordre le bras d'un petit camarade pour qu'il lâche un doudou. Quand il était inquiété par des surveillants, il allait se réfugier dans les cuisines de l'école où il était intouchable. À l'époque, il disposait d'une carte de cantine diplomatique.
Et pour terminer, le grand retour à l'antenne de Charline et Alex, alias Sibyl et Guy, face à leur double.
Ah, vous avez commencé la réunion sans moi, c'est pas grave.
Non mais Guy, c'est pas une réunion, là, on est à l'antenne.
Où sont les caméras?
Non mais le micro, Guy, c'est la radio, concentrez-vous sur le micro, là.
Pour estimer, vous avez parlé des records historiques d'audience ou pas?
Oui, alors, pas tellement, parce que, bon, figurez-vous
que... Vous avez remarqué que depuis que je suis arrivé dans la boîte, ça décolle.
Oui, alors...
c'est ce qu'on appelle l'effet Guy Lagache, oui. L'effet Guy Lagache...
Ça décoiffe, oui, je sais, mais râle, le micro, Guy, le micro.
Par contre, je crois qu'il y a une petite confusion pour les auditeurs. Ça, tiens. Oui, sur les réseaux, les gens disent à tort que France Inter, c'est la radio de la gauche.
Bah oui.
Alors que c'est la radio de la gâche.
Oh, oui. Oh, vous êtes impayable, vous êtes déjà tellement intéressant.
Ah, j'adore l'humour. D'ailleurs, Sibyl, c'est une jeune femme là en face de nous.
Oui.
Ce serait pas la petite chroniqueuse belge qui se fout de notre gueule à chaque fois?
Le grand retour de Guy et Sibyl. C'était la semaine des humoristes de France Inter. Le grand face-à-face continue avec le duel.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Duel Natacha Polony, Gilles Finkelstein, et on va commencer avec ça.
Je veux votre part de vérité, vos indignations. On a commencé à améliorer les choses, mais on a encore, je vais pas vous mentir, beaucoup de boulot. Continue comme ça, allez-y.
Je me lève parce que franchement, j'arrive pas à rester trop longtemps assise, faut que je bouge en fait.
Faites remonter l'info comme quoi ne plus utiliser les autistes comme insulte. On arrête maintenant.
Vous avez eu le courage de parler de vous pour ce que vous vivez. Vous l'avez fait, ça, c'est de la politique. C'est le plus beau de la politique.
C'était le président de la République, jeudi, devant un millier de jeunes en Saône-et-Loire, une nouvelle étape du grand débat national. Et il faut se souvenir, il y a tout juste 2 mois que le président était en visite au Puy-en-Velay. On se souvient des gilets jaunes courant derrière sa voiture, les insultes, les cris de haine. Et le président peut aujourd'hui se consoler avec des sondages qui indiquent la hausse de sa popularité. Et un sondage IFOP que publie Marianne Natacha cette semaine, sondage qui a fait du bruit. Si l'élection présidentielle était demain. Si l'élection présidentielle était demain, eh bien Emmanuel Macron obtiendrait 30% des voix au premier tour. C'est 6 points de plus qu'en 2017. Et toujours dans ce sondage, la deuxième, Marine Le Pen, avec 27% des voix. Gilles.
Bon, d'abord, ça vous surprendra pas. Je commence par une réserve, ou même une double réserve sur ce sondage, à la fois sur son moment. On teste des candidats à une élection présidentielle et il n'y a ni candidat ni élection présidentielle. Et peut-être davantage encore sur le contenu, c'est-à-dire sur l'offre politique qui a été proposée, c'est-à-dire sur les candidats. On est un peu dans un remake de 2017 où on reprend une partie des candidats qui s'étaient déjà présentés, pour partie dans les candidats à l'élection du Parlement européen de mai prochain, pour partie avec des chefs de parti. Si on avait testé, par exemple, pour les partis de gouvernement ou ceux que l'on appelait traditionnellement les partis de gouvernement, Bernard Cazeneuve d'un côté, Xavier Bertrand de l'autre, ou François Hollande et Nicolas Sarkozy, il aurait été intéressant de savoir si le score, et notamment le score d'Emmanuel Macron, aurait été le même. Donc, il y a ces éléments mais qui sont très importants, parce que l'offre politique dans un sondage, a fortiori dans une élection présidentielle, c'est absolument déterminant. Vous vous souvenez que la semaine dernière, ici même, on avait commenté un autre sondage de l'IFOP pour les élections au Parlement européen, où pour la première fois avait été testée une liste qui regroupait les différentes listes potentielles de la gauche démocratique, de Benoît Hamon, en passant par Place Publique et le Parti Socialiste, et que la présentation de cette offre politique aboutissait à un score de 13% et la troisième liste. Donc, l'offre politique, c'est très important et on est déconnecté. Donc ça, c'était les réserves, mais malgré tout, il faut quand même regarder de près ce que dit, parce que ce sondage dit aussi des choses.
Alors faisons-le. Natacha, d'abord, pour répondre aux réserves.
Mais les réserves sont tout à fait admissibles, en effet. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire une photographie. Nous sommes bien d'accord qu'il n'y aura jamais une véritable élection présidentielle à un moment donné avec ces candidats-là. Le problème n'est pas là. Il s'agit d'essayer de mesurer les rapports de force actuels et la façon dont ils ont bougé depuis 2017. Et donc, ce qui nous frappe, c'est que, en effet, si on regarde le premier tour, mais la tactique que suit Emmanuel Macron depuis son élection, à savoir c'est moi ou le chaos, quoi que vous pensiez de ma politique, quoi que vous pensiez de ma personne, de toute façon, vous n'avez pas le choix, sinon c'est le Rassemblement National, ben visiblement ça marche. Ça marche, mais c'est une tactique. C'est-à-dire que ça marche à court terme. Parce que si on regarde le sondage de second tour, et c'est celui-là, dans un sens, qui est plus intéressant, eh bien là, on a une Marine Le Pen à 44%. 10 points de plus qu'en 2017. Et si on intègre le vote blanc, parce que c'est ça aussi qui nous intéressait en fait, c'est la question de mesurer ce que donnerait une comptabilisation du vote blanc. On atteint 19% de vote blanc en cas de second tour Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Un Français sur cinq décide qu'il n'a pas à faire barrage à quoi que ce soit et qu'il s'extrait parce que tout cela ne lui plaît pas. C'est tout de même énorme, et ça, ensuite, ça implique une question dont nous avons parlé plusieurs fois ici, la question de la légitimité de celui qui est élu. Nous avons interrogé Jérémy Moilec, qui est un sociologue, et qui a cette distinction très intéressante. La différence entre la légitimité de l'homme, Emmanuel Macron est légitimement président de la République, c'est indéniable, mais il a été élu en tant qu'homme. En revanche, ça ne veut pas dire que son programme soit totalement légitime aux yeux des Français. Et cette distinction-là, je pense qu'il faut la réfléchir pour l'avenir de la démocratie.
Oui, c'est un sondage, en réalité, un sondage d'alerte. C'est un sondage d'alerte.
Oui.
Pour la démocratie, c'est le niveau des votes blancs, 10 points de plus qu'au second tour de l'élection présidentielle de 2017. C'est un sondage d'alerte parce que le score de Marine Le Pen, on dit qu'Emmanuel Macron progresse de 6 points, mais Marine Le Pen progresse elle aussi de 6 points en dépit de la campagne, en dépit du débat de l'entre-deux-tours.
Avec un Nicolas Dupont-Aignan à 6%, ce qui fait que si on ajoute les deux, ça commence à faire beaucoup, beaucoup.
Absolument. Donc alerte pour la démocratie, alerte et même alerte rouge pour les partis de gouvernement, puisqu'on voit que aussi bien le parti, dans cette offre électorale-là, je le redis, mais aussi bien le candidat du Parti Socialiste que le candidat des Républicains, et même d'une certaine manière, davantage encore le candidat du Parti Républicain, puisque Laurent Wauquiez fait 12 points de moins que François Fillon.
Il est crédité de 8% dans ce premier tour fictif. Bon, du
reste la question, et à mon avis c'est une question compliquée, de l'interprétation du score d'Emmanuel Macron. Parce que le paradoxe, c'est qu'on est dans un moment où il est à la fois, en même temps, renforcé et affaibli. Renforcé parce qu'il progresse, mais affaibli parce qu'il polarise contre lui. Là, toutes les enquêtes de popularité le montrent, 60, 70, 75% des Français. Donc, il y a les deux phénomènes qui coexistent. On est typiquement dans cette situation. Quand je me regarde, je me désole. Je ne suis pas sûr qu'il se désole beaucoup. Quand je me compare, je me console. Mais ça veut dire que...
Il peut se consoler. Il gagne malgré tout dans ce scénario-là.
Oui, mais on n'est que dans du relatif. Alors, évidemment, à un moment, l'élection, c'est du relatif. Et puis, il y a un autre élément qui n'a pas été souligné, c'est que le déséquilibre sociologique de ses soutiens est de plus en plus prononcé. Et notamment, il penche de plus en plus vers la droite. On le voit là, les sympathisants socialistes, on s'en souvient, avaient voté massivement, plus de 40% d'entre eux, pour Emmanuel Macron, ils ne sont plus que 10%. Les sympathisants républicains avaient très peu voté pour Emmanuel Macron, 10%. Ils sont aujourd'hui 40%. Donc ce déséquilibre, on le voit, ça laisse un espace qui est très ouvert et une situation qui est beaucoup plus fluide que ce sondage pourrait laisser penser.
Natacha ?
Oui, je suis d'accord. La situation est extrêmement flottante, extrêmement fluide. On ne sait pas du tout ce que ça peut donner. Ce qui est frappant, c'est tout de même de voir aussi l'effondrement de Jean-Luc Mélenchon et l'échec pour l'instant de sa démarche. Simplement, en effet, c'est un sondage d'alerte. Nous avons titré l'électrochoc, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que je pense que ce que nous raconte ce sondage, c'est la fracturation du pays. On va en parler tout à l'heure avec notre invité. Mais la question du peuple, la question de savoir ce que nous sommes en tant que peuple se pose plus que jamais.
On va en parler évidemment avec lui tout à l'heure, mais il faut quand même rappeler, et j'insiste dessus, il y a deux mois, c'était le puits en velay, et certains disaient que la République vacillait. On s'aperçoit que deux mois après, le président de la République a retourné la situation d'une certaine manière, qu'il construit une autre histoire. Les Gilets jaunes n'occupent plus la totalité de l'espace médiatique, et lui a des opinions plutôt favorables.
Non, il n'a pas du tout. Non, Ali, il n'a pas du tout des opinions favorable. Il est remonté du fond où il était. Mais
j'avais une vision optimiste. Oui,
vous avez une vision qui est trop optimiste. En revanche, là où vous avez raison, c'est que le grand débat a ouvert une nouvelle phase dans ce conflit. Et que, ce faisant, l'actualité est beaucoup moins polarisée sur les Gilets jaunes, beaucoup plus sur le grand débat. Et comme le grand débat, pour une grande partie, c'est Emmanuel Macron, il y a cet effet. Mais la question est de savoir après comment on en sort.
Oui, le grand débat, c'est surtout une formidable opération de communication de campagne d'Emmanuel Macron. Ça se voit, c'est bien fait. c'est bien fait et ça marche. Et il est très très bon. On entendait tout à l'heure les extraits. Il est très bon en prédicateur. Hein. C'est là qu'il, est, qu'il se sent le mieux.
Ouais, ce n'est pas que ça. C'est beaucoup ça et c'est beaucoup ce qu'on voit. Mais il y a aussi ce qu'on ne voit pas. Il y a quand même des milliers et des milliers de débats qui sont organisés dans les mairies, dans les associations. Et il y a des centaines de milliers de contributions de citoyens sur le site internet. Donc, c'est,
non, mais ça,
on
nous
voit
sommes bien d'accord.
Macron, mais il n'y a
c'est
pas que...
C'est ce qu'il en restera.
D'un mot, puisque le CSA est saisi de la question, comment compter ces heures d'antenne où l'on voit, où l'on entend le président de la République pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures en direct sur les chaînes d'info continue, Natacha?
Mais vous voyez bien à quel point tout cela est absolument inextricable. On le voit à chaque élection. Les règles du CSA sont extrêmement complexes, de plus en plus lourdes, et elles ne remplissent absolument pas leur rôle d'équité démocratique. Mais là, c'est pire que tout. En effet, on est dans un entre-deux où il s'agit de faire campagne de la part du président. Il s'agit d'aller prêcher. Bon, c'est d'une injustice totale pour l'ensemble des autres forces politiques, mais pour autant, personne n'imagine que le CSA va nous expliquer que c'est comptabilisé comme des heures de parole politique, évidemment.
Gilles, ce serait effectivement surprenant, d'autant que, de manière générale, le président de la République est toujours comptabilisé à part, a fortiori, dans ce moment-là.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
Ça va pas, un truc de dingue. Le patron, hier soir, il m'envoie un message. Il dit, tu vas aller bouffer. T'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi. Donc le patron nous soutient. Ah ben, il fait plus que nous soutenir. Puis moi, il a dit, je me suis senti trahi, j'ai été déçu. Il y a eu de la trahison, il y a eu de la déception sur le 1er mai. Ça remet en aucun cas en cause la confiance que je peux leur porter, enfin je peux lui porter par en l'occurrence, que je peux lui porter sur machin. Il l'a redit encore, et je suis fier d'avoir embauché Alexandre Benalla à mon cabinet. Sur le reste, la justice, elle fera son travail. Quand j'entends les conneries qui ont été dites, machin, etc., c'est, il est comme un fou. Il m'a dit, tu vas les bouffer, t'es plus fort qu'eux. C'est énorme.
Extrait de la conversation enregistrée entre Alexandre Benalla et l'ancien salarié de La République En Marche, Vincent Crase. Enregistrement révélé par le site Mediapart. Et rebondissement cette semaine dans ce feuilleton. Une histoire qui n'en finit pas. Il faudrait peut-être même dire les histoires, puisqu'il y a l'histoire des enregistrements, celle des violences du 1er mai, l'histoire des passeports, l'histoire maintenant d'un contrat avec un oligarque russe proche de la mafia. Et cette semaine, une tentative de perquisition à Mediapart. Matignon qui reconnaît avoir transmis des informations au parquet. La chef de la sécurité de Matignon qui est contrainte de quitter son poste. Vous n'étiez pas très intéressé l'un et l'autre par l'affaire Benalla. Affaire d'été, affaire d'État. Maintenant, il n'y a plus de débat. Gilles.
Comme le dit Alexandre Benalla, c'est énorme. Ça, effectivement, c'est énorme. Je ne suis pas très intéressé par le personnage Benalla. En ce sens qu'il est assez typique de ces personnages interlopes qui gravitent dans le monde politique depuis de très nombreuses années, avec à la fois leur faiblesse, aller à la limite, parfois au-delà de la limite, peu regardant sur les méthodes, peu regardant parfois sur les finalités, fanfaron, avec aussi, c'est ça qui peut être intéressant, leur force, parce qu'ils détonnent dans un paysage politique qui est souvent assez terne et assez uniforme. En revanche, au-delà du personnage Benalla, ce qui est, je crois, intéressant, ce sont le cumul des dysfonctionnements que cette histoire a engendré ou a révélé. Des pouvoirs publics, la manière dont le président et la majorité ont réagi à cette affaire au mois de juillet, de l'administration, quand on regarde comment il y a eu ces tergiversations pour récupérer les passeports, peut-être de la justice avec la perquisition chez Mediapart cette semaine. Et puis beaucoup d'interrogations. Vous avez soulevé la dimension russe, les écoutes malgré tout. Comment ces enregistrements ont-ils été faits? Par qui? Pourquoi? On n'en a pas fini, malgré nous, avec l'affaire Benalla.
Natacha.
Non, bien entendu, je ne dirais pas autre chose. C'est-à-dire que, alors, il y a la question du journalisme d'investigation. En effet, qui a eu intérêt à envoyer ces enregistrements à Mediapart? Parce que le journalisme d'investigation, c'est ça, c'est recevoir des enregistrements d'une bonne âme qui a décidé qu'on allait flinguer un tel ou un tel. Et gardons aussi à l'esprit une chose. Quand on entend Alexandre Benalla parler là et dire « le patron m'a dit ça », nous n'avons pas la preuve que c'est réellement ce qu'Emmanuel Macron lui aurait dit. Il faut garder aussi un tout petit peu de recul sur les fanfaronnades de ce personnage.
Beaucoup,
en revanche...
Beaucoup.
Beaucoup de recul.
Beaucoup de recul.
Alors, sur la, le, tu vas aller bouffer ça, j'attends s'il l'a dit par SMS, puisque c'est ce qu'il est censé avoir dit.
Oui, on attend de les trouver, les SMS, les voir. Bien entendu. Mais une fois qu'on a dit cela, en effet, il y a quand même quelque chose d'absolument effarant. D'abord, avoir donc une violation d'un contrôle judiciaire de façon absolument flagrante, tout de même. Ce qui signifie que, enfin, si la justice était aussi réactive que dans d'autres cas, ça devrait normalement donner lieu à une incarcération. Là, tout à coup, on ne sait pas pourquoi, c'est beaucoup moins rapide que quand il s'agit d'arrêter des manifestants. Mais surtout, on s'interroge sur le recrutement de toutes ces forces de sécurité. Maintenant, c'est plus seulement l'Élysée, c'est Matignon. Ce sont des personnages qui sont visiblement totalement au-dessus des lois, des règles. Pardon, mais on a un énorme problème là de recrutement, de réflexion sur ce qu'est le sens de la République.
Mais pour faire le lien avec le sujet précédent, ce qui était frappant, c'est qu'on disait que le président de la République avait décroché dans les sondages au moment de l'affaire Benalla, donc au mois de juillet dernier. Là, il semble remonter dans les études d'opinion malgré l'affaire Benalla.
Oui, je crois qu'elle n'a malgré tout plus la même incandescence que
non
qu'à ce moment-là. En tout cas, jusqu'à récemment, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait être prudent sur les déclarations de Benalla s'agissant des SMS qu'il aurait reçus du président de la République. Je crois qu'il faut être prudent aussi sur la chef du service de sécurité du Premier ministre, qui n'est pour l'instant impliqué que par ricochet, par l'intermédiaire de son compagnon. Et donc là aussi, soyons prudents. En revanche, violation du contrôle judiciaire, ça c'est manifeste, et violation aussi des déclarations qu'il a pu faire devant la commission d'enquête qui fait sous serment.
Une fois de plus, il y a tout de même, en effet, présomption de mensonge sous serment. Enfin, curieusement, alors que cette affaire devient de plus en plus ahurissante et de plus en plus grave, il y a une forme de lassitude, visiblement, de l'opinion. Bon, tant mieux pour Emmanuel Macron, mais je ne crois pas que la République en sorte grandie.
Le grand face-à-face sur France Inter.
Et dans l'actualité aussi, les relations tendues, l'absence de relations, le divorce peut-être, je ne sais pas comment appeler ça, entre la France et l'Italie. Jeudi dernier, la France rappelait son ambassadeur en Italie, accusation répétée, accusation outrancière de la part de Rome, déclarait le Quai d'Orsay, puisque mercredi, le Quai d'Orsay réagissait vivement après la rencontre entre le vice-président du Conseil italien, Luigi Di Maio, qui est aussi le chef du mouvement 5 étoiles, et des Gilets jaunes. Une situation qu'on dit jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale, Natacha ?
Je pense que c'est surtout l'aboutissement d'un processus. Et évidemment qu'il est inadmissible qu'un gouvernement vienne soutenir des opposants à un gouvernement allié, ami, bien sûr. Et tout cela n'est qu'une instrumentalisation. Simplement, il faut replacer ça dans l'histoire récente des rapports entre la France et l'Italie. Souvenons-nous quand même de 2011 et de la façon dont Silvio Berlusconi a été prié de s'en aller par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Enfin, il y a eu une pression extrêmement forte. Ensuite, nous avons tout de même l'affaire libyenne où l'Italie est totalement laissée de côté, par la France notamment, qui estime que bon, bah, on peut se passer de ses alliés qui pourtant sont les premiers concernés. La preuve qu'ils sont les premiers concernés, c'est qu'ils sont les premiers à subir la crise migratoire qui va suivre, que là aussi, on les laisse se débrouiller. Il y a une espèce de tradition du mépris pour nos voisins italiens qui finit à un moment par se voir. Et ça se termine avec la phrase d'Emmanuel Macron l'an dernier sur la lèpre qui monte, qui gagne en Europe et qui visait non seulement Viktor Orban, etc., mais expressément nos voisins italiens. Alors, quoi qu'on pense du gouvernement italien, le gouvernement français est censé faire de la politique et de la diplomatie, pas de la morale. Donc, je pense qu'il y a une réponse aujourd'hui du berger à la bergère. Elle est grave, mais il faut bien comprendre que tout ça se joue dans un contexte où il s'agit pour les uns et les autres de se positionner comme soit les vrais patriotes contre les méchants mondialistes, soit de l'autre côté, les progressistes contre les nationalistes.
Gilles.
Oui, c'est la crise la plus profonde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Même s'il y a eu des épisodes de tension, Natacha en a rappelé quelques-uns qui étaient récents, il y en avait eu d'autres du temps du général de Gaulle ou même du temps de Silvio Berlusconi, mais c'est la crise la plus profonde. Le problème, c'est que d'un affrontement à la fois personnel et politique, on passe à un affrontement de plus en plus étatique et même national. L'affrontement personnel ou politique, et moi évidemment je ne renvoie pas dos à dos l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'entre Emmanuel Macron et Matteo Salvini, mon choix est vite fait.
Les réponses du berger à la bergère, disait Natacha.
Mais il y a de fait une instrumentalisation réciproque, la recherche de boucs émissaires des deux côtés. Du côté d'Emmanuel Macron, Natacha vient de le rappeler, du côté des dirigeants italiens également, et il y a même une surenchère, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la surenchère traditionnelle des populistes, dont le style est la violence, dont la méthode est la provocation. Donc, provocation pour provocation, les populistes sont toujours les plus forts. Et il y a une surenchère dans la surenchère entre Matteo Salvini et Luigi Di Maio, qui sont en concurrence évidemment pour les élections au Parlement européen qui viennent, qui sont l'un et l'autre à la recherche d'un ennemi. Cet ennemi, c'est la France, c'est Emmanuel Macron. Donc, affrontement politique, affrontement personnel, mais de plus en plus affrontement d'État. Pour la première fois, il n'y a pas eu de sommet bilatéral entre la France et l'Italie l'année dernière. Et surtout, et c'est ça le plus inquiétant, un affrontement de plus en plus national avec un sentiment anti-français qui gagne beaucoup en Italie, dont un certain nombre de causes ont été évoquées par Natacha. Et je termine d'un mot. Je crois que le problème de l'Italie, en réalité, n'est pas tellement la France, que le problème de l'Italie, c'est l'Europe, c'est le monde et c'est la faiblesse dans laquelle elle se trouve. Elle pèse de moins en moins. Elle connaît un déclin à la fois démographique et économique absolument dramatique. Et on disait traditionnellement, enfin Cocteau disait, les Français sont des Italiens de mauvaise humeur. Aujourd'hui, les Italiens sont des Français de mauvaise humeur.
C'est assez dramatique. Natacha, est-ce que ça vous choque que Luigi Di Maio rencontre des gilets jaunes ?
Mais ce n'est pas que ça me choque. Je vois l'instrumentalisation politique. Simplement,
sa part ?
Oui, bien sûr. Mais ce qui me semble extrêmement dommageable, c'est que nous sommes au sein d'une Union européenne dans laquelle l'Italie est un des membres fondateurs et qui l'Italie devrait être un partenaire de la France. Nous voyons très bien aujourd'hui comment l'Union européenne est en train de s'organiser autour de l'Allemagne comme pôle central. La France aurait besoin, au contraire, de rééquilibrer pour pouvoir mener la politique qui est censée être celle d'Emmanuel Macron, d'une réforme de l'Europe. Il a besoin d'alliés pour ça. Or, l'Allemagne n'en est pas un. On le voit à chaque fois, il n'a obtenu que des fins de non-recevoir. Donc, se positionner comme le protecteur du monde libre face aux populistes est, à mon avis, une erreur. C'est-à-dire que petit à petit, on creuse le fossé au lieu de se donner les moyens de construire une Union européenne qui défende les citoyens de tous les pays européens.
Et justement, l'Union européenne en question avec ce qui suit.
Le grand face-à-face sur France Inter.
Cette semaine aussi, veto de la Commission européenne à la fusion entre Alstom et Siemens, des réactions politiques d'une rare violence. Et devant l'Assemblée nationale, c'était mercredi, le Premier ministre critiquait cette décision de la Commission.
Monsieur le député, vous m'interrogez sur la décision prise aujourd'hui par la Commission et qui a rejeté le projet de fusion porté par Alstom et Siemens. Vous savez que j'essaie en général d'avoir un propos mesuré, mais je vais répondre, je crois, clairement à votre question. La décision de la Commission est une mauvaise décision. C'est un mauvais coup à l'industrie européenne et elle me semble avoir été prise sur de mauvais fondements. Je ne peux pas être plus clair.
Édouard Philippe chaleureusement applaudit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas prolonger sa phrase par ces mots « on n'a finalement que nos yeux pour pleurer » Gilles ?
Il y a un consensus. Hors Marine Le Pen.
Hors Marine Le Pen.
Gauche et droite confondues, pro et anti-européens confondus, haro sur la Commission. Donc simplement pour le plaisir du débat, je vais essayer de prendre quand même une minute pour essayer de comprendre quelle a été la logique. Parce que c'est une décision exceptionnelle, en sens que c'est une décision très rare. Sur les 10 dernières années, 3000 cas examinés de fusion par la Commission, on est à moins de 10 refus. C'est une décision qui est attendue. Pour ceux qui suivent le dossier depuis des mois, il y avait deux sujets qui étaient des sujets sur lesquels la Commission considérait qu'il y avait un problème, la question des signalisations et des trains à grande vitesse. Sur ces deux sujets, Alstom et Siemens n'ont pas voulu apporter de réponse, c'est-à-dire n'ont pas proposé de cession substantielle qui permettait de modifier la situation. Et enfin, c'est une décision qui est argumentée. Si on écoute ce que dit la Commission, il faut écouter. Ils disent des choses simples. Ils disent la concurrence serait faussée dans ces deux secteurs-là, parce que Alstom et Siemens, qui sont déjà deux géants, auraient à eux seuls trois fois plus de parts de marché que leurs successeurs, que ce faisant, les consommateurs, en l'occurrence ce sont les clients industriels et les États, seraient lésés, et que la concurrence de la Chine dont on parle beaucoup n'est aujourd'hui pas une réalité, dans la mesure où le mastodonte chinois fait 90% de ses activités en Chine, et que jusqu'à présent ils n'ont même pas postulé à un appel d'offres européen. Donc ces arguments-là sont des arguments qui sont qui doivent être entendus.
Vous êtes vraiment bon avocat. On a l'impression Éric Dupond-Moretti, on va vous appeler acquittateur.
Alors le problème, c'est que si ces arguments sont intéressants, je pense qu'ils soulignent un point. C'est que l'Union européenne, c'est vrai dans ce secteur-là, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres, ne juge que par rapport à elle-même. Et que le problème, c'est qu'il faut qu'elle fasse cette mue, qu'elle regarde par rapport aux autres. Et trop souvent, elle ne le fait pas. Elle ne l'a pas fait sur la question des frontières. On en a parlé plusieurs fois. Très forte sur les frontières intérieures de l'espace Schengen, très faible sur les frontières extérieures. Elle l'a peu fait sur l'euro, très forte sur la stabilité de l'euro, plus faible. Et on a parlé aussi sur l'Iran, sur la monnaie dans sa dimension internationale. Et c'est exactement pareil sur la concurrence. Elle juge la concurrence pour l'essentiel par rapport à elle-même, par rapport à l'Europe, et pas assez par rapport au reste du monde.
Tout Natacha. Simplement parce que nous avons affaire à des gens qui sont des techniciens, voire des technocrates, qui connaissent parfaitement leurs règles, mais qui ne sont pas des politiques. Parce que là, on est dans l'ordre du politique. L'industrie doit faire l'objet d'une véritable pensée à long terme. Et c'est ça que l'Union européenne n'est pas capable de faire. Pour l'instant, bien sûr, le concurrent chinois est très loin. Mais qui imaginait, il y a 5 ou 10 ans, que Huawei en serait là où il en est? Donc cette anticipation n'existe pas dans l'Union européenne. Deuxième point, il est vrai que Alstom passait de fait sous le contrôle de Siemens. Ça, c'était une évidence, c'était pas un mariage équitable, pas du tout. Simplement, là aussi, on peut s'interroger sur le rôle de l'État français qui n'a pas voulu envisager, par exemple, l'option Alstom-Thales, qui aurait été intéressante parce que ça évitait cette question de la concurrence vue par l'Union européenne. Donc, il y avait d'autres possibilités de penser une politique à long terme. À tous les échelons, ça n'est pas fait, ni à l'échelon français, ni à l'échelon européen.
Oui, d'un mot, Gilles. D'un mot, je ne partage pas totalement ce que dit Natacha sur l'opposition entre les techniciens et les politiques. Le problème, je crois, n'est pas celui-là, c'est quelles sont les règles qui sont adoptées. Et je crois que, si je le dis d'un mot, l'enjeu, c'est que la Commission ait des règles qui lui permettent de voir plus loin dans l'espace, c'est-à-dire pas regarder, je l'ai dit, seulement l'Europe, mais le reste du monde, et plus loin dans le temps, regarder pas seulement la concurrence d'aujourd'hui, mais aussi la concurrence potentielle, et peut-être ne pas être seulement sur des règles juridiques de concurrence, mais aussi sur des règles sur des critères industriels, sur des critères sociaux, l'emploi, voire sur des critères environnementaux.
On va en rester là et on aura évidemment l'occasion de reparler de l'Europe et de l'Union européenne. Le grand face-à-face continue avec le débat.
France Inter. Le grand face-à-face. Le débat.
C'est un slogan écrit sur de nombreux gilets jaunes. Nous sommes le peuple, on s'en réclame, on parle en son nom. Mais au fond, et c'est une question qui est posée par l'actualité des dernières semaines, qui est le peuple? Le grand face-à-face ouvre le débat avec le président du Collège de philosophie, maître de conférence à la Sorbonne. Il publie un essai passionnant, Comment gouverner un peuple roi? C'est chez Odile Jacob. Bonjour Pierre-Henri Tavoyau.
Bonjour.
Et bienvenue. Comment gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage? On connaît c'est la formule générale de Gaulle. Comment gouverner un peuple roi? Pour le dire très rapidement avant d'engager le débat avec Natacha et Gilles, le peuple roi, c'est à la fois le peuple souverain, mais c'est aussi le peuple roi au sens où l'on parle d'enfant roi, d'enfant tyran qui ne supporte pas qu'on lui dise non, qui veut imposer ses désirs.
Oui, je pense que le diagnostic sur les démocraties contemporaines, au-delà de la France et de ses fromages, c'est, je crois, effectivement le diagnostic d'impuissance publique, c'est-à-dire l'idée d'une espèce de sidération des gouvernants à l'égard de demandes individuelles, de demandes de groupes, de demandes fragmentées qui ne cessent de monter. Et au fond, plus que la crise de la représentation, plus que même l'absence de sens et le désert spirituel dont on parle, il me semble que vraiment le cœur du problème, le nœud du problème, c'est l'impuissance publique.
Mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué de définir qui est le peuple, ce qu'est le peuple?
C'est en fait un petit raisonnement qu'on fait tous, c'est-à-dire que le peuple, on le cherche, on cherche le village, le visage dans la rue, sur
l'absus révélateur.
Oui, bien sûr, dans les villages justement, ou sur les banlieues. de l'Assemblée, et puis on n'y arrive pas. Donc, second moment du raisonnement, on va dire, ben finalement, on ne sait pas qui est le peuple, mais on sait qui sont les ennemis du peuple. Et on va poser des exclusions, des divisions. On n'y arrive pas davantage, parce qu'à partir du moment où on dit la France d'en haut, la France d'en bas, la France de Paris, la France des villages, voilà, on est dans la scission, dans la division, et on n'a pas le peuple. Donc après, troisième tentation, c'est le peuple, c'est moi. C'est-à-dire, je suis l'incarnation du peuple, c'est le geste populiste par excellence, qui n'est pas absurde dans son sens, mais là aussi, c'est une impasse. Et donc, voilà, arriver à définir le peuple en démocratie, c'est une exigence et d'une complexité phénoménale. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire dans le livre.
On va en parler évidemment, Natacha.
Mais je pense qu'il y a surtout le fait que ce terme « peuple » est éminemment polysémique. Et que il y a d'abord ces définitions possibles, le peuple comme entité ethnique, le peuple comme entité historique, le peuple comme entité politique. Et puis il y a après le peuple comme une part, comme une classe sociale spécifique. Et la question est de savoir, puisque nous voyons monter les populismes, c'est-à-dire cette opposition entre des élites et un peuple qui serait écrasé, ce qui est une façon de rejouer d'une façon simplifiée la lutte des classes, comment on fait coïncider ce peuple politique, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens voulant décider en commun de leur destin, et cette lutte contre la tendance oligarchique de la démocratie, c'est-à-dire le fait que, petit à petit, des élites estiment avoir raison contre le peuple.
Pierre-Henri Tavoyau.
Je pense qu'on peut répondre à votre question par une formule. Le peuple n'est pas un visage. Le peuple, c'est une capacité collective d'agir. Voilà. Ça veut dire que le peuple, c'est un concept un peu élaboré, qui est davantage quelque chose de l'ordre de la méthode que de l'ordre de la figure à rencontrer au coin de la rue. Capacité collective d'agir. Ce qui, au fond, résume la fameuse formule et définition de Lincoln de la démocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple.
Tout le monde s'en réclame aujourd'hui.
Voilà, absolument. Mais il faut arriver après à réfléchir sur ce que signifie cette capacité collective d'agir. Or, il me semble que cette capacité, cette méthode, passe par quatre étapes qui sont absolument indispensables et qui doivent être équilibrées.
On va en parler justement de ces quatre étapes, mais j'aimerais juste qu'on prenne un exemple très concret qu'on a eu l'occasion d'aborder ici, même en plateau, 2005, référendum de 2005, 55% s'expriment contre le projet de constitution européenne. 55%, est-ce que c'est le peuple ?
Non, c'est pas le peuple, c'est une partie du peuple, c'est du peuple. On confond toujours du peuple et le peuple.
Gilles ?
Mais d'abord, je trouve que le livre de Pierre-Henri Tavoyau est excellent. Et j'en recommande la lecture, et qu'il est courageux. C'est-à-dire qu'il prend à rebrousse-poil un certain nombre d'idées qui sont dans le débat aujourd'hui. Quand on donne cette définition, le peuple, c'est la capacité collective d'agir, on se prémunit contre la tentation d'une démocratie impuissante. Et c'est quelque chose auquel, je trouve qu'il y a un des fils rouges de ce livre, garder pour la démocratie la capacité à gouverner. Alors peut-être parfois dans cette défense de la démocratie libérale telle qu'elle est, parfois au prix d'un certain conservatisme ou d'une certaine réticence à envisager des évolutions de cette démocratie libérale, mais je trouve que c'est peu courant dans le débat et donc je voulais commencer par le saluer.
Bah très bien, mais vous ne répondez pas à la question. 55% qui votent contre la Constitution européenne, c'est le peuple, Natacha ?
Disons que je pense que Pierre-Henri Tavoyau a raison, c'est une part du peuple, puisque en démocratie, il y a une majorité, c'est-à-dire une part du peuple, qui décide. Le problème, c'est quand c'est tout le temps la même majorité qui gagne. Là, ça exclut une partie. Mais surtout, le problème se pose quand vous avez 55% de non et qu'ensuite, vous avez 90% des représentants qui votent le même texte à l'Assemblée.
Non,
là, ça devient beaucoup plus compliqué.
Pas le même texte.
Quasiment le même texte.
Ah non, c'est là qui est très important. Il y a quand même une nuance entre le traité de Lisbonne et la Constitution européenne, c'est que le traité de Lisbonne n'est pas une constitution. Ça change tout. Et en plus, c'est un engagement. Donc, il faut bien avoir conscience que le peuple vote contre ce texte. Ce texte est refusé. Après, il faut que le peuple soit en cohérence avec lui-même. Parce qu'on dit, le peuple, il décide hic et nunc. Mais le peuple, c'est pas simplement le peuple ici et maintenant. C'est le peuple d'hier. Et c'est le peuple de demain.
Bien sûr.
Et c'est-à-dire qu'il faut être cohérent. Le vote contre la Constitution européenne, c'est pas un vote contre l'Europe. Donc il faut faire en sorte, et c'était le projet de Sarkozy, de ce point de vue parfaitement clair, qui était de dire, OK, vous avez refusé la Constitution, maintenant il faut être cohérent avec nos engagements passés. Voilà l'idée. Donc d'une certaine manière, il y a une cohérence. Alors si on veut faire voter contre l'Europe, très bien, on fait ce qu'ont fait les Anglais. Et là, le peuple dit, on est contre, on est en faveur de la sortie de l'Europe.
C'est le peuple britannique qui s'est exprimé sur le Brexit, oui. Toujours la même question.
Là, pour le coup, la procédure est présente. Il y a un résultat, il y a des règles du jeu qui sont claires au départ. Et en l'occurrence, les Anglais ont voté en faveur du Brexit.
Natacha. Pardon, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que le peuple, c'est pas uniquement ici et maintenant, parce que sinon, ça s'appelle l'opinion et les pulsions momentanées. Donc, il y a un processus de délibération, il y a un travail de ce peuple, un travail même historique. En revanche, le principe de la démocratie, c'est qu'une génération ne peut pas entraver la génération suivante. Donc, c'est un compromis permanent entre les engagements qui ont été pris et la volonté éventuellement nouvelle qui doit pouvoir se manifester. Or là,
une génération,
on
c'est
est
quoi
au contraire...
C'est 20, 25 ans ?
Non, mais 30 n'importe.
Ans. 30 ans ? C'est un spécialiste aussi des âges de la vie, Pierre-Henri
Cavoyau. Oui, mais peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a eu des engagements avant qu'ils emprisonnent la démocratie. Donc, il faut en permanence penser la possibilité pour un peuple de constater qu'il s'est trompé, que ça n'a pas donné ce qu'il voulait, que donc il peut sortir. Or, le problème du traité de Lisbonne, c'est d'avoir imposé, non pas une constitution, mais rigoureusement la même vision de ce que devait être une Union européenne, alors que c'est cette vision de l'Union européenne qui était rejetée.
Vous êtes d'accord avec Natacha, Gilles ?
Oui, juste un mot. Semaine après semaine, on a un leitmotiv qui revient, qui est le référendum de 2005. Dominique Reynier a comptabilisé dans l'Union européenne, je crois, 220 élections référendaires, présidentielles, législatives, dans lesquelles la question de l'engagement à l'Europe était en jeu et qui, dans une immense, immense majorité dans tous les pays, réitérait l'engagement européen.
Donc,
il y a 2005,
mais
il n'y a pas que 2005. Il y a un point très important dans ce que dit Pierre-Henri Cavoyau, qui est le peuple, ce n'est pas seulement le peuple de maintenant. Ça veut dire que, ce que ça veut dire derrière, c'est qu'il y a une limitation à la souveraineté du peuple, qui ne peut pas, du peuple d'aujourd'hui, qui ne peut pas tout faire.
Mais c'est ce que disait Natacha aussi.
Oui, mais
on engage pour une génération. Mais pour que tout le monde comprenne, et nos auditeurs en particulier, la Constitution française, la Ve République, elle a été votée en 1958. Bon, le temps a passé. Aujourd'hui, en 2018, est-ce qu'on peut se dire que les Français qui ont voté en 58 n'engagent plus les Français d'aujourd'hui ? À vous entendre,
c'est toujours un compromis. C'est-à-dire qu'on a on a des engagements passés qui sont notamment aussi des traités internationaux. On a des perspectives d'avenir qui sont un peu floues et c'est vrai que là, ça se discute. Et puis on a la situation maintenant. Et à chaque fois, il s'agit de faire un compromis pour pas entraver l'avenir, pour pas trahir le passé et pour effectivement garder la capacité d'avenir. Mais je crois qu'il faut vraiment, sur cette définition du peuple, insister sur les dimensions de cette méthode parce que c'est vraiment le point capital pour dire cette méthode, c'est effectivement des moments de choix, des moments où le peuple est consulté. C'est ce qui ressort actuellement de la crise des Gilets jaunes. Le peuple a une exigence d'être consulté. Alors je suis personnellement pas favorable à la démocratie participative. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que une démocratie participative où on demanderait constamment au peuple son opinion, eh bien, exige la participation du peuple, c'est-à-dire la mobilisation constante du peuple. Alors personnellement, moi j'adore la politique, j'en fais beaucoup, j'enseigne, etc. Mais il y a des moments, j'ai pas du tout envie d'y aller. Et donc si je n'y vais pas...
Vous n'êtes pas le seul.
Si je n'y vais pas, qui va y aller ? Eh bien des minorités actives. Donc d'une certaine façon, la participation du peuple, c'est pas du tout le pouvoir du peuple, c'est l'abandon du pouvoir du peuple à des minorités actives.
Mais vous citez Robespierre, un discours du 10 mai 1793 et un rêve de Robespierre qui imaginait que l'assemblée des délégués du peuple, des représentants, puisse délibérer en présence du peuple tout entier. Et il imaginait, et l'idée est assez folle, un édifice vaste et majestueux, je cite toujours Robespierre, ouvert à 12 000 spectateurs. Voilà, ce serait le lieu des séances du corps législatif. On pourrait imaginer donc que ça aurait lieu dans un stade aujourd'hui. Ce rêve-là, c'est totalement chimérique.
C'est la chaîne parlementaire.
C'est la chaîne parlementaire.
Voilà, c'est exactement ça. Donc non, c'est ce rêve-là. Alors c'est très bien la chaîne parlementaire, mais c'est les 12 000 spectateurs de la chaîne parlementaire.
Natacha.
Non, mais je pense que vous avez tout à fait raison sur la question, le problème que poserait la distorsion de la démocratie participative. En effet, on voit déjà à quel point les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, vous l'analysez très bien, c'est une des dimensions à la fois de la solution et du problème. Mais cette confiscation par les minorités actives, elle existe déjà. Elle pourrait en effet s'amplifier. Simplement, Face à cela, il y a la question, et elle est cruciale, de ce que vous appelez l'impuissance publique, qui est le nœud du problème. Mais l'impuissance publique qui fait que le peuple a l'impression d'être trahi, ça vient aussi de la décision de certaines élites politiques d'abandonner leur propre pouvoir. Et c'est bien le problème que nous vivons depuis 40 ans, à savoir que nous avons des politiques qui, pour beaucoup, ont décidé que sur certains points, ils ne pouvaient pas agir. Et du coup, le mandat que leur donnent les citoyens ne peut pas être véritablement appliqué.
Pierre-Henri pas agir Tavoyau. Ou pas assez délibéré. Je pense que de ce point de vue-là, il y a un rôle du Parlement qui est à repenser sans aucun changement institutionnel. C'est-à-dire que le Parlement, enfin l'Assemblée notamment, devient une simple chambre d'enregistrement des lois qui sont décidées par ailleurs, avec très peu de marge de manœuvre en termes de suggestions. Le Parlement a lâché une proposition de François Cornu-Gentil qui me paraît très intéressante, qui consiste à dire que le Parlement a un rôle d'évaluation. Est-ce que la loi va être nécessaire ? C'est capital ça, parce que chaque fois qu'il y a un problème, l'anticasseur, hop, on met une loi. Est-ce que la loi est nécessaire ? Et une fois qu'elle est votée, est-ce que la loi est efficace ? Eh bien, le rôle du Parlement, qu'il doit réinvestir de ce point de vue-là, au lieu d'être une chambre d'enregistrement, c'est simplement dire, est-ce qu'on a besoin de la loi ? Est-ce que cette loi est utile et nécessaire ? Voilà typiquement une transformation interne, du fait même que les élus prennent leurs responsabilités et changent leur manière de travailler.
Gilles Finkelstein.
Oui, c'est le point sur lequel j'avais une distance par rapport à votre livre, qui peut basculer vers une forme de conservatisme au sens où la défense de la démocratie libérale que vous faites peut aller jusqu'à minorer les critiques et les difficultés de la démocratie représentative que l'on voit en France et que l'on voit dans de nombreux autres pays, et ce faisant les remèdes qu'il convient d'y apporter ou que l'on peut essayer d'y apporter sans basculer dans autre chose. Donc, vous venez de l'évoquer, et c'est un point sur lequel je me bats depuis de nombreuses années, de donner au Parlement, et d'ailleurs auquel on peut connecter davantage les citoyens, un rôle à la fois en amont dans la concertation et en aval dans l'évaluation des lois et l'évaluation de l'administration. Là, le Parlement ne se saisit pas des pouvoirs dont il dispose, mais au-delà de la question de la démocratie représentative et de lui redonner un lustre qu'elle a perdu, la question de la connexion des citoyens, non pas nécessairement par la démocratie directe, mais dans la démocratie représentative, je crois, est un enjeu qui est très important.
Pierre-Henri Tavoyau.
J'admets très bien votre critique, parce que je pense que là, il y a une question d'évaluation du temps présent. Quelle est l'urgence ? Est-ce que l'urgence, c'est de modifier les institutions avec ce mouvement extraordinaire qui consiste à dire « on va tout changer et ça va être formidable », auquel je ne crois pas un instant, même si je reconnais très volontiers comme vous qu'il faut effectivement améliorer un certain nombre de choses. Je pense que l'urgence.
Vous n'y croyez pas par pessimisme naturel ?
Non, parce que ça va accentuer le blocage. Problème, c'est que ça va accentuer l'impuissance publique. Si on demande, par exemple, un référendum d'initiative citoyenne, ça va démultiplier les campagnes électorales. On a vécu une campagne électorale d'une longueur inouïe, parce qu'il y a eu les primaires, il y a eu ensuite des épisodes tout à fait. Les candidats en sont sortis lessivés, anéanti au sens strict du terme. Et donc, c'est pas un service qu'on rend à la démocratie en usant de nos candidats, de nos élus, de nos politiques avant de s'en servir. C'est un très mauvais service. Si on veut aussi reconnaître le vote blanc, mais ça veut dire qu'il n'y aura tout simplement jamais d'élus. Jamais d'élus.
Jamais.
Ben non, il n'y aura aucun élu aujourd'hui qui aura le quota nécessaire de 51% pour exercer. Donc on sera dans l'impuissance continuelle. Donc ces mesures me paraissent mais proprement délirantes. Donc je pense que dans la situation actuelle, dans l'urgence où nous sommes, l'objectif politique à avoir, c'est de défendre la démocratie représentative telle qu'elle existe, qu'on puisse l'améliorer, etc. Mais toute initiative dans le sens de la démocratie participative va produire des catastrophes. Voilà mon diagnostic, mais je suis prêt évidemment à discuter en disant que les améliorations peuvent être négociées.
Vous voyez, c'est très intéressant la façon dont vous décrivez la campagne présidentielle. Vous nous dites qu'elle a été d'une longueur épouvantable, c'est vrai. Donc, on ne voudrait pas revivre cela. Mais une campagne sur un point précis n'aurait rien à voir avec ce qu'on a vu dans la campagne présidentielle. Et souvenons-nous des débats de primaire, des débats présidentiels, c'était toujours extraordinaire, c'est-à-dire que les sujets qui étaient mis en avant, c'était plus ou moins de fonctionnaires, et vous, combien vous en retirez, et vous, encore plus. Et puis finalement, des sujets comme l'environnement, comme l'Europe même, comme l'éducation, arrivaient à la fin, et les animateurs disaient « Ah, on n'a plus vraiment le temps, désolé ». Alors que Un référendum d'initiative citoyenne permet au contraire de traiter un sujet et d'aller au fond de ce sujet. Je ne suis pas une adepte totale du référendum d'initiative citoyenne, mais je ne pense pas qu'on puisse utiliser l'argument de la longueur
mais
de
il
la
en aura
présidentielle
pas qu'un.
Pour
il n'y en
ça.
Aura pas qu'un, il y en aura 10, il y en aura 30.
Oui, mais sur des
et donc,
sujets
à chaque
différents
fois,
dans lesquels on met à plat réellement les
non,
choses.
Parce que ça
alors
sera
que dans
forcément...
une campagne présidentielle, non, ce ne sont jamais les choses essentielles qui
je,
sont
je
mises
pense
à plat.
Pas, mais je pense que...
Pierre-Henri Tabouillon.
Effectivement, la procédure référendaire, elle existe, on a des possibilités, il y a cette nouvelle possibilité d'initiative partagée entre les citoyens et les élus. Donc, on peut la favoriser, elle n'a pas été utilisée encore, donc c'est l'article 11 de la Constitution. Donc, voilà, il y a déjà quelque chose qui existe. Mais si on entre dans une frénésie d'exigences référendaires, moi, si vous voulez, le peuple, pour moi, dans sa méthode, c'est des élections, des délibérations, des décisions, des redditions de comptes. En France, on adore les élections. On voudrait qu'il y en ait tout le temps. On adore la délibération, on le voit actuellement. On adore faire rendre des comptes aux élus, tellement d'ailleurs qu'on voudrait passer du contrôle terminal au contrôle continu. C'est-à-dire en revanche, la décision n'a plus sa place. Et ça, c'est la vraie difficulté. Et de ce point de vue-là, c'est un élément juste du diagnostic des démocraties illibérales, mais qui vont, à mon sens, bien trop loin dans la renonciation à la délibération et aux libertés. C'est effectivement l'impuissance publique qui est la clé.
Et ouais, Gilles,
il y a trois sujets. La démocratie directe, comme substitut à la démocratie représentative, je vous suis, c'est une illusion, un leurre, et d'ailleurs personne ici ne le partage. L'idée, c'est est-ce que dans un référendum qui serait qui resterait encadré dans son champ, encadré dans son initiative, est-ce qu'on peut aller plus loin? Vous dites que le référendum d'initiative partagée n'a pas été utilisé, il n'a pas été utilisé parce qu'il est à peu près inutilisable dans les conditions qui ont été fixées. Donc je pense que c'est ça la question sur la démocratie directe. Il y a un deuxième sujet qui est sur la démocratie représentative, comment on fait pour lui donner davantage de légitimité, voire davantage de pouvoir. La question du vote blanc, là aussi elle dépend des critères. Tel que dans la constitution actuelle, vous avez raison, puisqu'il faut, pour être élu, avoir plus de 50% des suffrages. Mais il y a beaucoup de pays dans lesquels est élu celui qui arrive en tête. Et donc, dans le sondage dont on parlait tout à l'heure, Emmanuel Macron aurait été élu au deuxième tour de l'élection présidentielle avec 45% des voix contre Marine Le Pen. Dans beaucoup de pays, ça se passe comme ça. Et c'est pas nécessairement un drame. Et on sort d'ailleurs d'une espèce d'illusion d'un président qui a derrière lui une majorité absolue de suffrages et autour duquel tout s'organise.
Troisième point,
c'est pour moi le point le plus important, c'est entre la démocratie directe et la démocratie représentative, c'est comment on reconnecte davantage le peuple à la décision elle-même. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure.
Natacha Akiès, j'aimerais quand même que vous nous expliquiez, parce que c'est un mot qui est très difficile à entendre aujourd'hui dans le climat actuel, la nécessité d'une obéissance volontaire des citoyens. Cette expression-là...
Oui, choque forcément.
Elle choque forcément.
J'utilise avec évidemment esprit de provocation totale. C'est l'idée que le premier devoir aujourd'hui du citoyen, c'est d'obéir. Mais j'allais dire, c'est presque pris dans le concept. Comment pouvez-vous être citoyen sans obéir? Obéir au sens étymologique, c'est prêter l'oreille. C'est pas la servitude volontaire, l'obéissance volontaire. C'est prêter l'oreille, c'est écouter les autres. Il me semble que c'est la condition minimale de la citoyenneté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes avec les autres, vous ferez freiner votre ego, vous frustrer un peu, et ça suppose d'obéir un peu aux autres et aux règles collectives.
Comment donc, convaincre ceux qui se revendiquent de l'insoumission? C'est même devenu l'un des noms d'un parti,
oui,
la France Insoumise.
Forcément, ce qui m'amuserait beaucoup dans l'idéal et dans l'abstrait, c'est que les insoumis deviennent au pouvoir, aient le pouvoir. C'est très difficile quand vous êtes insoumis que vous deveniez le parti insoumis au pouvoir. Ça existe au Mexique, le parti révolutionnaire institutionnel. Ça,
le prix.
Mot formidable. Voilà, quand vous êtes insoumis et au pouvoir, c'est un truc qui colle pas. Donc voyez, c'est cette contradiction-là sur laquelle il faut constamment rappeler le bon sens.
Le besoin d'obéissance, Natacha?
Oui, et d'adhésion, surtout. Oui. D'adhésion, simplement. Ce qui me frappe, il y a une étude qui était parue dans le New York Times il y a un an, qui était un petit peu passée inaperçue. L'auteur expliquait, avait compilé énormément de données, et il en avait tiré la conclusion que dans les pays occidentaux, et alors que ce soit aux États-Unis ou en Europe, eh bien ceux qui étaient le plus hostiles aux libertés publiques, à la démocratie, c'était les gens qui se situaient au centre de l'échiquier politique. C'était eux qui étaient les plus méfiants. Et ça, ça nous raconte ce que vous nous dites sur le peuple, mais ça nous raconte aussi la fracture entre les élites et une part du peuple. C'est-à-dire qu'il y a derrière tout le débat que nous avons...
Mais les élites font-elles partie du peuple ?
Mais bien sûr, bien sûr. Enfin, tout, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut se définir le peuple comme mot polysémique. Oui. Mais simplement, la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une confiscation de tout le processus de la démocratie représentative par des gens qui ont décidé que finalement, eux, ils savaient et qu'ils étaient plus intelligents et que donc on pouvait sacrifier une part de la démocratie à cela.
Oui, je prolonge d'une phrase.
Parce qu'il reste vraiment très
longtemps. Une phrase. En fait, c'est la thèse de Yascha Mounk dans le livre qu'il a publié. Mmh. On l'a reçu ici, La démocratie contre le peuple. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les démocrates contre les libertés et les libertés contre le peuple.
Avec une nuance, c'est qu'en démocratie, il y a une règle. Moins le pouvoir des notables est fort, plus l'abstention augmente. Et ça, il faut en prendre en compte. C'est-à-dire, les notables, la notabilité baisse et l'abstention croît. Peut-être on est allé un peu
trop
loin.
C'est mécanique.
C'est mécanique. On le voit au Japon, en Inde, voilà. Même en France d'ailleurs. Et donc, de ce point de vue-là, la limitation du cumul des mandats, il faut peut-être un peu se méfier.
Merci Pierre-Henri Tavoyot. Comment gouverner un peuple roi ? Traité nouveau d'art politique, c'est la recommandation de l'équipe du Grand Face-à-Face. C'est publié chez Odile Jacob. Natacha et Gilles, je vous retrouve samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Claire Destacan, à la technique Juliette Delperrou. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions politiques avec le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.